la sécurité sociale comme droit de l'homme, parce que c'est à ce titre que le comité des droits économiques, sociaux et culturels l'a étudié. Alors, je voudrais commencer par lire l'article 9 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui est sans doute le plus court de ce pacte, mais ce qui ne veut pas dire le moins compliqué. Cet article dit ceci: les États parties au présent pacte reconnaissent le droit de toute personne à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales. Article particulièrement laconique et qui recouvre des réalités diverses dans les différents pays du monde, ce qui nous a amené au Comité des droits économiques, sociaux et culturels à essayer d'en préciser les contours, d'en définir le contenu normatif, le contenu juridique, et puis d'essayer de voir à quoi cet article obligeait les États qui avaient ratifié le pacte. Je précise que c'est une majorité d'États qui ont ratifié ce pacte, puisqu'il y en a à ce jour 160, et que certes, pour le moment, leur seule obligation est de présenter des rapports à notre comité, mais que un protocole facultatif est en cours de ratification et que le jour où il s'appliquera, nous pourrons recevoir à ce moment-là ce que l'ONU appelle des communications, mais ce que j'appellerai en langage plus courant, des plaintes pour non-respect du pacte et donc non-respect en particulier de cet article 9. Donc, premier point, le droit à la sécurité sociale est un droit de l'homme. L'article 9 du pacte le dit, mais c'est pas le seul article. Dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, les articles 22 et 25 aussi définissent ou du moins abordent la sécurité sociale, et on la retrouve dans pas mal d'instruments qui sont en vigueur depuis, et notamment la Convention contre la discrimination à l'égard des femmes ou la Convention sur le droit des enfants. Donc, je voudrais commencer par essayer de voir quel est le contenu. Alors, ce que j'ai oublié de dire et qui me paraît peut-être le plus important, c'est que si c'est l'article le plus court du pacte, c'est aussi un des plus complexes, et c'est surtout, et je crois que c'est ce point-là qui est important, parce qu'on a vocation au comité à étudier des situations du monde entier, c'est surtout celui qui est le plus inégalement appliqué dans le monde. Parce qu'entre les États d'Europe du Nord, qui, en matière de sécurité sociale, ne sont pas forcément des modèles, mais quand même ont des systèmes extrêmement sophistiqués et extrêmement protecteurs, et des pays de l'Afrique subsaharienne où pratiquement la sécurité sociale n'est qu'un mot, dans la mesure où 80 ou 90% de la population est dans le secteur informel, c'est-à-dire à des travaux précaires qui ne lui donnent droit à aucune prestation, ni à l'accès aux soins de santé, ni à l'accès à un éventuel chômage, et a fortiori à une éventuelle retraite après X années de travail. Donc, réalité très diverse, mais malgré tout, nous avons tenu à essayer de définir le contenu normatif de ce que c'était ce droit. Et je vais en énumérer rapidement, parce que le temps est compté, et je ne suis pas sûr qu'il faille rentrer dans beaucoup de détails, mais je vais quand même énumérer, pour préciser les idées, ce que contient ce droit à la sécurité sociale. Le premier point, c'est que il doit y avoir une disponibilité du système, c'est-à-dire que les États qui ratifient ce pacte doivent mettre en œuvre un système de sécurité sociale. Je dis ça parce qu'il y a encore un certain nombre de pays au monde qui n'ont pas mis en œuvre la moindre trace d'un système de sécurité sociale. Que doit-il couvrir? Alors d'abord, les risques et les aléas sociaux. Risques et aléas sociaux, ça comprend une série de choses. Ça comprend les soins de santé, primaires, mais aussi soins de santé en cas de maladie, en cas d'accident, et tout ce qui tourne autour de la natalité. Soins de santé à la femme enceinte, soins de santé après l'accouchement et pour les jeunes enfants. Donc maladie, vieillesse, évidemment, les États devraient mettre en place un système législatif national prévoyant un âge de la retraite. Nous savons qu'actuellement, les pays qui en disposent ont une tendance fâcheuse à élever de plus en plus cet âge de la retraite. Et puis prévoir des prestations vieillesse, soit une retraite pour ceux qui ont cotisé, soit une sorte de minimum vital passé le temps de travail. Le système doit prévoir aussi des indemnités de chômage en cas de perte d'emploi, avec des prestations pendant une durée qui varie d'un pays à l'autre, mais une durée adéquate qui permette de retrouver un emploi. Je parle là du système idéal tel qu'il devrait être. Je ne tiens pas compte à ce stade de ma présentation de la situation actuelle où tout ceci reste pour beaucoup un peu un rêve lointain. Il doit couvrir les accidents du travail et les maladies du travail. Je précise que tous ces éléments correspondent aussi des conventions de l'OIT et de l'Organisation internationale du travail. Et la plupart des pays qui ont ratifié ce pacte ont aussi ratifié les principales conventions de l'OIT. Et en matière d'accidents du travail, c'est la convention 121. Il doit prévoir l'aide à la famille et à l'enfant, les prestations de maternité, d'invalidité en cas d'accident dont les conséquences sont l'invalidité, et les prestations pour les survivants et orphelins après décès du soutien de famille ou du salarié, quel qu'il soit. Donc voilà en gros le contenu normatif. Mais selon notre observation générale, il doit y avoir aussi une adéquation aux besoins et une certaine accessibilité à ces droits. Ce qui implique une couverture sans discrimination. Je rappelle que l'article 2 du pacte, l'article 2.2, prévoit que tous les droits prévus dans ce pacte doivent s'appliquer sans discrimination pour tenant à la race, à l'origine sociale, à l'origine ethnique, etc., etc., aux opinions politiques. Et l'article 3 du pacte prévoit aussi l'interdiction de toute discrimination en raison du sexe, c'est-à-dire, pour le dire en d'autres termes, prévoit l'égalité, au moins normative, entre l'homme et la femme. Nous savons qu'en matière de travail, notamment, cette égalité n'existe pratiquement dans aucun pays. Donc ouverture, admissibilité, accessibilité économique, c'est-à-dire que les cotisations ne doivent pas dépasser un certain montant de façon à ce qu'un travailleur avec un salaire normal puisse les payer, participation et information et accès physique. Je passe rapidement et j'insiste un peu sur la non-discrimination et l'égalité. En fait, notre observation générale, c'est-à-dire le contenu de ce droit à la sécurité sociale, interdit toute discrimination de droit ou de fait. Par exemple, la Convention 177, qui prévoit le travail à domicile, prévoit que les prestations de sécurité sociale dans ce cas devraient être égales à un travail en entreprise. Et on sait que bien souvent, ce n'est pas le cas. Mais aussi égalité des sexes. Qu'est-ce que ça veut dire, en particulier égalité des sexes? Mais ça veut dire, par exemple, fixer un âge égal de départ à la retraite. Or, dans de très nombreux pays, l'âge de la retraite est différent pour la femme et pour l'homme, alors que bien souvent, la femme n'a pas eu une carrière complète pour des motifs, notamment de maternité et autres, mais parce que les tâches sont inégalement réparties. Les travailleurs insuffisamment protégés par la sécurité sociale devraient être protégés. Et dans la conjoncture actuelle de crise économique et financière, on voit bien qu'il y a de plus en plus de contrats précaires, de contrats à temps partiel, occasionnels, de travailleurs indépendants ou à domicile. Les travailleurs indépendants, je pense de là dans les pays d'Afrique subsaharienne ou en Amérique latine ou en Asie, ce sont souvent de petits vendeurs des rues qui, bien évidemment, n'ont accès en matière de sécurité sociale ou d'assurance sociale strictement à rien. Je voudrais insister un peu sur l'économie informelle. Je le disais en commençant, dans certains continents, l'économie informelle recouvre l'immense majorité du travail. Si on prend l'Afrique subsaharienne, les chiffres sont autour de 80 ou 90% de travail informel. Qui dit travail informel dit, a priori, accès, non accès à une quelconque prestation sociale. C'est-à-dire non accès automatique aux soins de santé, même les soins de santé primaires, aucune protection de la femme enceinte évidemment aucune obligation de retrouver son travail après l'accouchement. Et dans certaines zones, comme les zones dites franches, on a des politiques antisyndicales, on a des gens sous-payés, en dessous du salaire minimum quand il existe, car il n'existe pas dans tous les pays le salaire minimum, etc., etc. Je disais Afrique subsaharienne 80-90%, en Amérique latine ou en Asie, ça tourne entre 45 et 60%. Dans nos pays européens, je crois qu'on peut facilement assimiler travail informel, donc travail qui ne donne pas accès aux prestations sociales, et fraude. 9 fois sur 10 dans nos pays, qui dit travail informel dit, de la part de l'employeur, évasion fiscale, évasion civile et pénale aussi, c'est-à-dire et sociale. On évite de payer les droits sociaux, des prestations de sécurité sociale, d'allocations familiales, etc., etc. Et donc, c'est assimilé à la fraude. Mais j'ai quand même envie de dire que dans les pays dits pauvres, la question se pose autrement qu'en termes de fraude. Et en Afrique, par exemple, bien souvent, les gens vivent de la solidarité familiale. Il y a bien souvent pas de système de sécurité sociale organisé au niveau national par l'État, mais la solidarité familiale jouant, c'est un système de protection. Donc, tout ceci pour dire que la question de l'économie informelle est une question extrêmement compliquée, extrêmement complexe, et c'est la raison pour laquelle l'OIT est en train de réfléchir quand même à un certain nombre d'obligations minimum pour les États qui n'ont pas mis en place un système de sécurité sociale. Et je crois que cette réflexion est importante. Certes, elle ne touche pas nos pays, elle ne touche pas les pays comme la Suisse où il y a un système de sécurité, ou la France, moi je suis français, où il y a un système de sécurité sociale. Mais elle touche ces pays où aucun système n'est mis en place et du coup, les travailleurs, et a fortiori leurs familles, n'ont droit à aucune protection. Donc de plus en plus, l'OIT réfléchit à des systèmes et à des programmes permettant, malgré l'informalité du travail, si je peux utiliser ce terme, de bénéficier d'un minimum de protection sociale, c'est-à-dire les accès aux soins de santé de base, aux soins primaires de santé, bien évidemment l'accès à la scolarité pour les enfants, etc., et l'accès à un minimum de prestations et à revenus qui permettent de vivre, non pas décemment, mais de survivre, car bien souvent, le travail informel n'est qu'un moyen de survie. Alors, je passe sur le caractère juridique des obligations des États vis-à-vis du pacte. Éventuellement, je pourrais y revenir à l'occasion de questions ou autres. Simplement pour dire que comment les États doivent mettre en œuvre à l'échelon national ce système de sécurité sociale, ils doivent d'abord mettre en place un système de législation, de réglementation, car ça peut paraître curieux dans nos pays extrêmement développés, mais il y a quand même des pays où il n'y a aucun système légal qui a été mis en place pour la protection sociale. Et puis, à partir de là, mettre en place des stratégies et des politiques qui permettent peu à peu de mettre en œuvre ce système de sécurité sociale. Il doit y avoir une surveillance, des indicateurs, des critères et des recours éventuellement judiciaires en cas de non-application de la sécurité sociale. Mais là, on reste dans certains pays dans le domaine un peu de l'utopie, car il est bien que les jurisprudences dans beaucoup de pays d'Afrique, mais surtout d'Amérique latine et d'Asie sur ces questions de sécurité sociale soient souvent des jurisprudences avancées. Je voudrais, en terminant, indiquer qu'on est dans une période extrêmement difficile sur toutes ces questions de sécurité sociale et d'assistance sociale. Car ce qui se passait dans les pays en voie de développement est en train d'atteindre les pays développés. C'est-à-dire qu'on voit bien, avec l'augmentation considérable du taux de chômage dans la plupart de nos pays, pas seulement l'Espagne, la Grèce ou l'Italie, si je prends mon propre pays, la France, on est à plus de 10%, et je pense que je suis encore en dessous de la réalité en parlant de ce 10%, ça veut dire... Alors, il y a encore un système de prestations de chômage, etc., mais quand c'est du chômage des jeunes qui n'ont jamais travaillé ou quand c'est un chômage de longue durée qui, au bout d'un certain temps, ne donne plus accès aux prestations sociales, indemnités de chômage ou autres, on voit bien qu'il y a une précarisation progressive d'une partie importante de la population, y compris donc dans les pays développés, et un appauvrissement général qui, finalement, amène un certain nombre de gens qui avaient un travail dit formel de passer au travail informel. Je dirais que le tableau général est quand même assez négatif, et que c'est peut-être une raison pour laquelle il sera important que, à propos de notre comité, que le protocole facultatif voit le jour et qu'il puisse y avoir des recours le moment venu en cas d'inapplication de ce droit. Alors j'ai été très très rapide, mais c'était simplement pour montrer que dans nos pays où on a l'impression que tout va extrêmement mal et se dégrade, et c'est pas faux, on reste sur ces questions-là très privilégié par rapport, je dirais, aux deux tiers ou aux trois quarts du monde où il n'y a même pas de système en place de sécurité sociale. Il n'y a aucune garantie d'ordre social, d'allocation familiale, de toutes sortes de prestations qui, pour nous, sont encore naturelles. Et il faut se battre pour que ça continue. Mais on est sur la mauvaise pente.